Bonjour à tous.
Bonjour.
Ça fait plaisir de voir d'autres frères et sœurs. L'Église Corps de Christ est une réalité. Hein? Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, mais sous-entendu des sœurs, hein, de demeurer ensemble. Et à la fin de ce psaume, il est dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Voilà que son salon soit béni. Merci à nos frères et sœurs pour ce temps de louange. Nous allons, sans plus tarder, ouvrir notre Bible dans le livre des Rois, le premier livre des Rois, au chapitre 19, et nous lirons des versets 1 à 17. Alors là, je transgresse les règles les plus élémentaires, voilà, quand mon homme critique nous a pris attention, lorsque vous prêchez, prenez une petite péricope, quelques versets, etc. On va prendre le temps de lire le texte biblique en Église. C'est important, ça vous permettra aussi, ça nous permettra de nous remettre davantage en contexte. 1 Roi, chapitre 19, les versets 1 à 17. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Comme introduction, on aurait pu trouver mieux. Hein? Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à monter la vie. L'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à monter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin vers le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël, roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dans la bouche ne l'ont point embrassé. Amen. Je vous invite à la prière, frères et sœurs. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous voici maintenant à partager ta parole. Nous te prions de nous aider à la comprendre, à saisir ce que tu veux nous dire ce matin, Seigneur, et que nous puissions repartir chacun d'entre nous en ayant reçu quelque chose de toi. De toi, Seigneur. Tu pardonneras la faiblesse de ton serviteur pour ce qui concerne le langage, la pensée. Et je te prie de venir à mon aide, Seigneur, afin que je puisse délivrer ce que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, merci, parce que tu es là, présent, et tu veux nous bénir. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. La prédication ce matin pourrait s'intituler « Le découragement d'Élie à Horeb ». Ça aurait été bien de parler Horeb, c'est une montagne. Dans le chapitre précédent, nous avons évoqué rapidement, il s'agissait de la rencontre d'Élie sur le mont Carmel. Alors, pour une petite présentation rapide, Élie, en tout cas, c'est un personnage très particulier, dans le bon sens du terme, il y a bien des égards, car son ministère, on peut le voir, comme celui d'Élisée, son successeur, fut ponctué d'actes de puissance, miracles, prodiges, etc., etc. Chose extraordinaire, il ne verrait pas la mort comme Hénoc, car il fut enlevé au ciel plus tard, après cet épisode, dans un champ de feu. Il est aussi celui qui, selon la prophétie de Malachie, devait revenir. Ça s'est traduit par la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui devait avoir en lui l'esprit et la puissance d'Élie. On le voit dans les évangiles s'entretenir avec Moïse, sur la montagne de la Transfiguration avec le Seigneur Jésus. Il est également cité par Jacques comme exemple de fidélité et de persévérance dans la prière. Enfin, il semble être, selon certains, l'un des deux témoins suscités par Dieu avec Moïse et dont il est fait mention dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, et qui seront revêtus à la fin des temps d'une puissance et d'une autorité particulière. Ça, c'est pour après. Maintenant, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, avant cet événement, dans 1 Roi 18, eh bien, il y a des éléments extraordinaires qui s'étaient passés. Le peuple de Dieu était tombé dans l'apostasie la plus totale. C'est une des périodes les plus sombres de l'histoire du peuple d'Israël. Acab était le roi de l'époque, Jézabel, j'allais contre les femmes, hein. Je parlerai à plusieurs reprises de cette femme-là, mais c'était un personnage quand même assez particulier. Une femme impie, princesse sidonienne, elle, de son côté, avait introduit l'idolâtrie. Prophète de Baal, prophète d'Astarté, et à un moment donné, Dieu se révèle à son prophète et lui dit, va devant le roi Acab et annonce-lui que pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura ni pluie, ni rosée sur la terre d'Israël. 3 ans et demi de famine, à l'issue de laquelle, eh bien, Dieu cache son serviteur, il le nourrit, on le voit, il est chez une veuve, chez la veuve de Sarepta, il y a énormément de choses incroyables et extraordinaires qui se passent dans la vie de cet homme-là. Et à un moment donné, au bout de 3 ans et 6 mois, Dieu lui dit, va à nouveau te présenter devant Acab. Et demande-lui que les prophètes de Baal et d'Astarté viennent sur le mont Carmel, avec tout le peuple d'Israël. Et là, c'est le grand défi qui est lancé. Et là, on voit qu'il y a les sacrifices qui sont offerts. Ça donnera lieu à une prédication là-dessus. Il y a beaucoup de choses importantes qui sont nécessaires pour nous. On voit que Dieu répond à la prière d'Élie par le feu. Le peuple tout entier se retourne vers Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Une partie des prophètes de Baal sont supprimés. Et ensuite, eh bien, Élie continue. Et là, il intercède et la pluie arrive au bout de 3 ans et 6 mois. Voilà pour faire court. Et suite à cela, eh bien, la Bible nous dit, parce que tout bascule dans la vie d'Élie pour lui, quand il apprend que Jézabel, la femme du roi Acab, nous l'avons lu tout à l'heure, voulait le faire supprimer. Alors, je reviens à notre texte. Élie arrivera donc après 40 jours d'une marche harassante à Horeb, dans une caverne pour se réfugier. L'on peut se demander pourquoi il s'était enfui devant Jézabel. Alors que tout était, semble-t-il, rentré dans l'ordre, par rapport à ce que j'ai évoqué auparavant. Les menaces de mort de cette ensorceleuse, parce que c'est le terme qui est utilisé par un roi plus tard, Jéhu, à son endroit, l'avaient fortement troublé. Même si en réalité, on le sait, elle n'avait plus les moyens de le faire tuer comme elle le prétendait. Mais elle restait potentiellement dangereuse. C'était quand même un personnage. cette Jézabel. D'ailleurs, Jézabel, on retrouve, on va dire, son sosie, je ne sais pas, une réminiscence de Jézabel, dans le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur Jésus lui-même met en garde l'église de Thyatire pour faire en sorte que cette Jézabel, fausse prophétesse, qui est au sein de la communauté, eh bien, soit écartée, parce qu'elle séduit et elle conduit, eh bien, les serviteurs de l'Éternel à des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Donc, c'est dire à quel point. Alors, il ne faut pas cependant reconnaître que, pour la défense d'Élie, on va dire, pour porter quelque chose à son crédit, que peu de gens auraient eu assez de courage comme lui pour faire face comme il l'a fait auparavant sur le mont Carmel. On a de la peine à s'imaginer ce que ça pouvait représenter. Faire face à autant d'opposition, tous les prophètes, tout le peuple d'Israël. En tout cas, ce que nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, c'est que cela avait certainement engendré chez lui un stress et de la fatigue. Mais Jézabel, même si elle ne pouvait pas le supprimer, Jézabel avait toutefois réussi son coup, en écartant du coup le prophète de la scène religieuse. Car en s'enfuyant, le prophète lui permettait de maintenir un tant soit peu son influence sur le roi Acab et sur le peuple. C'est ce qui se passait dans l'église de l'Apocalypse. De plus, l'œuvre de restauration que Dieu avait entamée au sein du peuple était loin d'être terminée. Et pour clôturer le chapitre, l'autorité d'Élie, pardon, avait été aussi évincée par Jézabel et son ministère avait été mis en veille. Et ça, c'est terrible. Il faut dire que l'intimidation, parce que c'est de cela dont il s'agit ici, frères et sœurs, conduit le plus souvent à la confusion, à la peur et au découragement. C'est pourquoi la personne intimidée perd toute perspective juste. Elle ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Et elle tombe dans une espèce de spirale de culpabilisation ou pas. Alors la seule issue pour elle dans ces cas-là, c'est la fuite pour éviter l'affrontement. Tout en recherchant, bien évidemment, les moyens de se protéger. C'est ce qu'a fait lui ici dans notre chapitre. L'intimidation, on n'en parle pas souvent, c'est une réalité sur le plan spirituel. L'intimidation constitue aussi un moyen de pression, un moyen de manipulation, et bien sûr, de domination sur l'autre. Il n'est pas rare que ça se passe comme ça dans les couples. À noter notamment chez le pervers narcissique, ou la perverse, comme on pourrait dire, mais pas que. C'est une réalité à laquelle, qui existe, à laquelle on est confronté. Mais je ne crois pas que l'Église aussi, pour le Christ, en soit épargnée. En tout cas, c'est une arme, frères et sœurs, il faut se rappeler, très efficace entre notre ennemi de toujours, le diable. C'est pourquoi nous ne devons jamais fuir l'intimidation. Nous ne devons pas la subir, mais la confronter. Et c'est jamais facile. Ça m'est arrivé une seule fois dans mon ministère. Ça n'est jamais facile. Mais si nous le faisons, c'est la bonne chose. Et Dieu sera là pour nous aider à pouvoir le faire. C'est la seule manière d'éviter le problème pour la personne qui subit cette pression qui est en face, que pour les autres aussi, pour préserver les dégâts au sein de la famille et au sein de la communauté. Alors revenons à notre texte. Dieu posa pour la deuxième fois la même question à son prophète. Alors que là, il se trouvait à l'entrée de la grotte. Que fais-tu ici? Je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous, cette scène-là. On peut s'imaginer, il y a quelques schémas, des esquisses qui ont été faites par rapport à ça. Élie qui sort, il est mitouflé un petit peu dans son manteau, Dieu l'appelle, il entend la voix de Dieu, etc. Il dit, que fais-tu ici? Ici, Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu glorieux, ce Dieu créateur par qui rien ne vit, rien ne meurt, il prend le temps. Il se donne la peine de descendre vers sa créature découragée, peinée, dans le plus grand des désarrois. Il se donne la peine de venir lui parler et de s'entretenir avec lui. Il prend la peine de l'écouter. Que fais-tu ici? Alors on peut penser bien sûr à la question, vous vous souvenez de la première question dans la Bible? Ça ne vous dit rien ça? Que fais-tu ici, Élie? Au commencement, où es-tu, Adam? Bien évidemment, Dieu savait où il était. C'était pour le faire sortir de sa cachette. Vous savez, quand on était gosse, nous, les enfants aussi, il y avait quelqu'un qui avait chapardé dans le frigidaire, un dessert, c'était bon. ce n'est pas le moment de le faire, etc., on appelle d'un côté et de l'autre. Donc on pose la question, même si on savait où les aider, pour les faire sortir de leur péché. Et je pense que Dieu l'utilise à peu près de la même manière ici. En tout cas, cela peut nous étonner, car même si la fuite du prophète a été à l'origine de ce voyage, c'est l'Éternel qui l'avait ensuite conduit à Horeb, parce qu'il savait que c'était là qu'il fallait qu'il se calme. Horeb évoque pour nous, eh bien, la montagne de Dieu, la montagne où là, Dieu a manifesté sa puissance par différentes théophanies, les apparitions de Dieu, par le fracas du tonnerre, par les éclairs, par la foudre, par la nuit, etc. C'est là que Dieu avait révélé eh bien, les 10 commandements à Moïse, et toute la loi. C'est là, en tout cas, où il manifesta sa présence glorieuse. En tout cas, cette insistance peut nous faire penser, en tout cas, moi ça me fait penser à cela, le comportement du Seigneur vis-à-vis de son petit serviteur Élie, à un professeur faisant passer l'épreuve de l'oral à un élève, et auquel il tendrait la perche pour des questions, afin de d'entendre de sa part, enfin, la bonne réponse. Bon, ça ne se passe pas comme ça, heureusement. C'est arrivé déjà. Mais il n'est pas aussi interdit d'interpréter que ce questionnement il est aussi comme un « tu ne devrais pas être ici à fuir. Tu n'es pas au bon endroit. » Il nous arrive parfois aussi, nous, dans notre cheminement, notamment dans le cadre de difficultés, de turbulences dans notre vie, de nous retrouver dans des situations et dans des endroits qui n'ont pas été prévus par Dieu pour notre vie. Dieu invite donc ici son prophète accablé à mettre des mots, et ça c'est important, sur ce qui lui est arrivé. Vous savez, il n'est pas toujours facile de venir en aide à quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Je pense à un Christian, frère que j'avais connu dans le Tarn, j'avais revu beaucoup plus tard lorsque j'étais de passage à l'église là-bas, peut-être Carmo Albi pour ceux qui connaissent. Et là, on m'avait parlé de Christian, on m'avait appris ce qui lui était arrivé. Donc Christian, tout a basculé dans sa vie le jour où sa fille aînée a été décédée du sida. Sida qu'elle avait contracté à cause de son compagnon qui était toxicomane. Donc c'était une situation qu'ils essayaient de gérer au mieux pendant toutes ces années-là. De plus, sa fille avait donné naissance à un petit garçon. Mais le problème, c'est que les grands-parents n'ont pas pu avoir accès à cet enfant, et c'est cet homme-là qui a eu la garde de ce garçon. Et ça en a été trop pour Christian. Quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait quasiment un virtuose de la guitare sèche. Il accompagnait pendant le culte le dimanche, etc. Et quand je l'ai revu, c'était l'ombre de lui-même. C'était plus le Christian que j'avais connu auparavant. Et ça m'avait déchiré le cœur. En fin de compte, Christian était dans une prison de verre, vous savez. Je parle sur le plan psychologique. Donc on le voyait, il nous voyait, il n'y avait pas trop de communication. Et le seul accès pour cette prison de verre, cette bulle de verre, on va dire, eh bien c'était une porte. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait qu'une seule poignée. Et la poignée se trouvait à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a que lui qui pouvait être en mesure d'ouvrir cette porte. Notre Dieu est un grand pédagogue. Ça, vous le savez, car il sait quand, il sait comment nous interpeller et se révéler à nous quand c'est nécessaire. Et comme pour Élie, il l'a laissé arriver là-bas, il l'a conduit dans cette grotte, il attend le bon moment. Comme un père a compassion de ses enfants, dit le psaume, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Quand Élie répond, on peut constater qu'il est complètement négatif. Ça, c'est une constante pour des gens qui sont dans cette situation. Car il a complètement zappé les événements qui s'étaient passés avant. Tout ce qui était positif, la manière dont Dieu était intervenu, la gloire de Dieu qui s'était manifestée, le peuple qui était retourné vers Dieu, la pluie qui était arrivée, etc. Tout ça, il a zappé. Et qu'est-ce qu'il a en tête ? C'est la situation désastreuse d'avant l'intervention de Dieu, l'idolâtrie. Il restait focalisé là-dessus, en répétant toujours le même discours, la même litanie. Autre détail, il se croit seulement, et ça c'est une réalité aussi, je suis resté moi seul. Peut-être fidèle, sous-entendu, je ne sais pas. Autant Adias, la Bible nous l'apprend, bien avant, le chef de la maison du roi Akab avait déjà rencontré, a raconté, avoir caché et nourri son prophète de l'Éternel, alors que la reine Jézabel, l'impie, voulait les mettre à mort. Le Seigneur lui dira en tout cas ici qu'il n'est pas seul, mais qu'il garderait dans le pays 7000 hommes qui lui étaient restés fidèles. Alors bien évidemment, dans ces cas-là, on a parfois l'impression d'être seul, même seul au monde. Pourtant, ce n'est pas le cas, en tout cas pour ce qui nous concerne, pour nous qui mettons notre confiance dans le Seigneur. Car nous ne sommes jamais seuls, et c'est heureux. Nous avons la famille de Dieu. Et plus particulièrement, eh bien, nous avons le Seigneur. Nous pouvons souligner aussi une troisième chose. Élie avait déjà voulu mourir. Précédemment, nous l'avons lu, c'était au vers quelques versets, verset 4, je crois, oui. À l'exemple du prophète Jonas, que Dieu avait envoyé vers la ville ennemie de Ninive pour l'appeler à la repentance, mais voilà que toute la population du temps de Jonas s'était repentie, à sa grande surprise. Et qu'avait voulu faire Jonas? Eh bien, Jonas voulait aussi mourir, parce que ça ne s'était pas passé comme lui il l'avait prévu. Terrible quand même ça. Maintenant, Éternel avait-il dit, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Même Moïse, mes frères et sœurs, le savez-vous, le grand Moïse, ne supportant plus la lourde charge qui pesait sur ses épaules de conduire le peuple d'Israël, un peuple au courant, comme nous dit la Bible. Là, il a tenu vraiment la route, Moïse. Il avait demandé à l'Éternel, et là je cite, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux que je ne crois pas à mon malheur. C'est Moïse qui l'a dit. Alors quand on dit aujourd'hui dans certains de nos milieux très spirituels qu'il n'est pas possible pour un chrétien de passer par ces étapes-là, parce que ce n'est pas une preuve de spiritualité, mais qu'il consulte les Écritures. Parce qu'avec Moïse, nous-mêmes, nous ne sommes pas dans le même registre. Nous ne jouons pas dans la même cour. Je pense à Moïse, je pense aussi à des hommes comme Jérémie. Je pense aussi à Job, qui a vécu dans le cadre des épreuves tout ce qui pouvait se vivre. Oui, ce sont ces hommes-là qui sont passés par ces difficultés-là. Ce sont ces hommes-là qui, au fait de la souffrance, du désarroi, du découragement le plus total, ont demandé à Dieu. Et Moïse a demandé à Dieu comme une grâce de le faire mourir. Quel témoignage. Alors, Moïse va lui répondre, il dit, écoute, t'es trop fatigué. Vous vous souvenez, c'est là que Dieu va mettre en place les 70 anciens, pour qu'ils puissent seconder Moïse dans la charge et dans la gestion des affaires au sein du peuple d'Israël. En tout cas, il y a eu Job, c'est le pire des cas, il y a eu Jérémie. Jérémie qui dit à Dieu, serait-il pour moi comme une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr? Et que fait Job? Il dit, maudit le jour où il est né. Et il y a d'autres cas dans les Écritures. Mais ils étaient talentés, frères et sœurs, et ça c'est ce qui est important, c'est qu'aucun d'entre eux n'a été abandonné à son sort. Ils ont tous reçu une réponse et tous ont bénéficié de l'intervention de Dieu dans leur vie. C'est ça qu'il faut retenir. Vous savez, frères et sœurs, les Superman, les Superwoman, les super-héros, ça n'existe pas. C'est un mythe dans la tête de certains, qui ont une fausse conception de la vie chrétienne, de la vie spirituelle. Je me laisse un petit peu aller. Lorsque je regarde le Seigneur Jésus, dans le cadre de son incarnation, la limite de son incarnation, qu'est-ce que je vois? Je ne vois pas un surhomme. Je vois un homme constamment obéir à la volonté de Dieu. Un homme qui marche dans la piété, dans l'obéissance. De qui se manifeste une certaine puissance, bien évidemment. On le voit l'autorité sur la loi, sur les éléments déchaînés, sur les démons, sur la nature même. Mais Jésus n'a jamais péché. Et nous, eh bien, en tant que chrétiens, nous devons nous inscrire dans ces pas. Parce que notre seule référence, notre seul repère, même si tous ces hommes et ces femmes que nous avons connus de manière plus proche, contemporaine, ceux qui ont été signalés dans les Écritures, constituent pour nous des repères. Mais le seul repère pour nous, la seule référence pour nous, frères et sœurs, c'est Jésus. Alors que le Seigneur nous donne, eh bien, de prendre conscience de cela. Ce n'est pas ce qui est à rechercher, mais il peut arriver à tout le monde et à n'importe qui de vivre et de traverser par ses difficultés, par ses épreuves. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Alors, nous découvrons ici un prophète épuisé, découragé, rien à voir de ce que nous connaissons de lui par ailleurs, ce que nous avons énuméré en introduction, et pourtant, c'est certainement l'un des moments les plus importants de sa vie et de son ministère qui se joue ici. Il est reconnu que l'on peut facilement passer du découragement, et on y arrive progressivement, à la dépression. Bon, ça, c'est un mot que l'on connaît. On a un vocabulaire aujourd'hui avec ces vies tellement trépidantes, tellement agitées. Dépression. Le terme dépression n'est utilisé, semble-t-il, par les médecins qu'à partir d'un certain seuil. Celui de l'intensité des troubles et de leur durée. Elle se caractérise, et ça on le sait, par la tristesse, le cafard. Qui, à un moment donné de sa vie, n'a pas eu le cafard? Ce n'est pas dire qu'on a le cafard, on est dans la dépression. Ça ne peut pas dire ce que je n'ai pas dit. Par le manque d'envie de faire quoi que ce soit, la négativité ou le sentiment d'échec, un manque de perspective et un repli sur soi, et il y en a bien d'autres. En tout cas, cela peut parfois aussi induire dans la personne un comportement agressif ou suicidaire. Alors il y a un terme qui est vraiment d'actualité, c'est burn-out. Vous connaissez? Mais ça correspond malheureusement à une réalité. Burn-out. Et dans nos milieux, nous, dans le monde militaire, nous avons... Il est apparu, il y a déjà, depuis un certain nombre d'années, je suis revenu une fois d'Afghanistan, nous avions un sas de décompression à Chypre, retour de mission, après 6 mois de mission d'Afghanistan. Et là, nous arrivions, il y avait un grand hôtel, les 4 étoiles, etc. C'était un truc super. C'était pas du luxe au sens fort du terme, c'était une nécessité. Et là, ça permettait aux militaires, après tous ces gens-là, même à l'aumônier, de revenir et de pouvoir, avant de rentrer en maison, d'où l'expression sas de décompression, être pris en compte. Et tout un tas de choses, et notamment avec un entretien avec le psy. Pour que tous ces réflexes qui ont été acquis en Afghanistan puissent s'en aller, puisqu'on puisse désarmer toutes ces choses-là. Parce que vous savez que le retour d'Afghanistan, d'Irak ou d'ailleurs, même les guerres précédentes, eh bien, il y a eu beaucoup de dégâts sur le plan psychologique, en France ou dans les autres armées. Le but, c'était d'aider le militaire à reprendre un certain nombre d'habitudes, une certaine normalité en rentrant à la maison, retrouver l'épouse et les enfants. Et moi, le psy m'avait pris à part. Il m'avait seulement dit une seule chose. Il m'avait dit une seule chose. Il m'a dit, monsieur l'aumônier, vous passez votre temps, parce que c'est votre travail, je sais, je le reconnais, de prendre soin des autres, de vous occuper des autres. Mais prenez soin de vous-même. Je ne sais pas ce qu'il avait décidé par rapport à ça. En tout cas, ma femme a vite compris ce qui s'était passé quand je suis rentré à la maison. Parce qu'il y a un changement qui s'opère en nous. On n'en est pas conscient. Il y a une certaine, il y a un certain comportement qui s'en va. Et nous devons veiller là-dessus. Nous devons veiller sur cette question qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui est une réalité dans notre monde. Alors, la dépression, je ne suis pas un psy, depuis quelques notes, bien évidemment, c'est des choses que vous connaissez, que nous pouvons rappeler ce matin. J'ai découvert déjà depuis un temps que la dépression pouvait survenir à tous âges, très surpris. L'enfance, à partir d'un certain âge, l'adolescence, au milieu de la vie, après un accouchement, baby blue, à la ménopause, même à la vieillesse, et pour des causes diverses et variées, surmenage, chômage, mauvaises conditions de travail, la maladie, relations familiales, séparation, décès du conjoint. Et la liste ici, vous le savez, est loin d'être exhaustive. Mais nous devons noter aussi que tous ceux qui sont engagés dans un ministère particulier, eh bien, ne sont pas malheureusement exemptés. Je parle de l'Église. Je crois que les plus touchés, à mon sens, sont les ministères pastoraux. Je n'ai pas trop conscient de cela. C'est important de prier pour vos pasteurs, communiquer avec eux, dire ce qui ne va pas, mais prier pour eux, les soutenir. J'ai recueilli des statistiques, ça remonte à des années, pas des années lumière, mais bien longtemps en arrière, et je crois que c'est pas en France, ne vous inquiétez pas, ça trouve, c'est peut-être la réalité ici, je crois que ça vient des États-Unis, peut-être dans un certain milieu, des églises protestantes évangéliques. Et voilà ce qu'il est dit, suite à cette statistique, 75% des serviteurs à plein temps vivent une forte crise liée au stress tous les 5 ans. 70% se battent contre la dépression quotidienne. 80% des pasteurs et 84% des épouses se sont découragés dans leur ministère. 40% d'entre eux et 47% des épouses rapportent qu'ils souffrent d'horaires délirants et d'attentes irréelles. Ça existe. Hein. Certaines communautés, je ne pense pas ici, dans certaines communautés, il faudrait que les pasteurs travaillent plus que 24 heures par jour. Ça arrive. Il y a des attentes complètement irréelles. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il est important de prier pour les pasteurs. On n'est pas toujours d'accord avec eux. C'est un pasteur qui vous parle. Hein? C'est normal. Mais je pense qu'il faut prier pour eux. Parce qu'il y a une charge hein, sur le plan spirituel. Il y a une opposition. Et nous, en tant que pasteurs, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin. Je profite que frère n'est pas là. C'est pas moi le pasteur de la communauté, c'est mon unitaire. Nous avons besoin d'eux. C'est le cœur de pasteur qui parle. Je n'ai pas prévu ce que je vous dis. Nous avons besoin d'eux. Peut-être que. On ne les manifeste pas de la bonne manière. Peut-être qu'on ne sait pas le dire. Par orgueil. Peut-être quelque chose. Mais nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin que vous veniez nous dire ce qui ne va pas. Bien évidemment, il faut que moi aussi je prenne en compte ce que vous venez me dire. Ça aussi, c'est important. C'est ça l'Église. C'est dire à quel point, parce qu'il y a des choses que nous ne partageons pas, nous ne pouvons pas partager. C'est un ministère quand même qui... On est toujours... On marche toujours en solo avec quelque part par là. Et bien évidemment, heureusement que nous avons par la grâce de Dieu des épouses qui tiennent la route, qui nous soutiennent, qui sont là aussi pour nous aider. On ne peut pas leur mettre tout sur les épaules. Ça n'est pas possible. Donc priez pour nous. Voilà, c'est ma petite aparté là, en tant que pasteur. J'ai d'ailleurs connu un pasteur très apprécié, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, et qui a eu par la suite d'importantes responsabilités, ça remonte à bien des années, et qui au début de chaque année, et pendant près de 2 mois, sombrait dans la dépression. Mais c'est un homme remarquable à bien des égards. Il était suivi par un psychiatre qui était chrétien. Il me disait que c'était comme un tourbillon, qu'il attirait irrésistiblement au fond, et contre lesquels il n'arrivait pas à lutter. C'était des périodes comme ça. On priait, bien évidemment. Alors, il en souffrait, bien sûr, de deux manières. Déjà, dans un premier temps, en tant qu'enfant de Dieu. Comment que ça peut m'arriver à moi qui suis enfant de Dieu? Mais aussi en tant que fidèle pasteur. Nous avons donc à veiller, frères et sœurs, les uns et les autres, sur cette question-là. En prendre conscience, parce qu'il y a parfois des signes qui viennent nous alarmer, sans pour autant devoir rester dans le déni. Le déni, ça, c'est encore autre chose. À moins d'un miracle, il est très difficile, voire impossible, de venir en aide à une personne qui s'y réfugie dans le déni. Alors, fort heureusement, bien évidemment, l'épisode difficile du prophète Élie ne s'arrête pas là. Car le Seigneur lui demandait ensuite de reprendre sa route. Afin, comme il l'avait prévu, ce qui était prévu dans le cahier des charges, quoi. De donner l'onction à Hazaël comme roi de Syrie et à Jéhu comme roi d'Israël. D'ailleurs, tous deux seront des instruments de jugement entre les mains de Dieu. C'est d'ailleurs Jéhu plus tard qui supprimera le culte du Baal au milieu du peuple d'Israël et par la même occasion, après avoir fait confronter Jézabel, eh bien, il la fera supprimer. Élie devra par la suite aussi oindre Élisée comme prophète, c'est-à-dire son successeur. Alors, frères et sœurs, à l'évocation de ce que nous avons dit, nous aussi, nous avons notre propre histoire. Nous avons notre propre cheminement. Et certainement connu des passages à vide difficiles, des périodes de sécheresse au plan spirituel, des périodes de traversée des déserts. Nous n'avons pas seulement traversé cette vallée du désert, mais nous avons aussi traversé cette vallée de Baca dont il est question dans cet testament, qui est considérée comme la vallée des pleurs. Il nous arrivera aussi de désespérer de nous-mêmes, même si ça n'est pas déjà fait, face à des situations qui pourraient nous dépasser, voire nous accabler, de remettre en question la profondeur de notre engagement ou de notre ministère, ou peut-être même de la bonté et de la fidélité de Dieu à notre égard. Il y a bien des années en arrière, j'étais dans le village de ma mère, en Nouvelle-Calédonie, ça remonte à très longtemps, je n'étais pas dans le Seigneur. J'avais des copains de village qui avaient fait son arrivée ici en France. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça. Et alors qu'il était à Saint-Nazaire, il était là-bas pour assister à un concert de Michel Sardou. On aime ou on n'aime pas. Bien, en tout cas, il est dirigé, c'est quelqu'un qui est impliqué. Et là, il y avait différents morceaux qu'il avait pu interpréter. Et là, à un moment donné, quand il a interprété le Pape Beaufranc, c'est quand il a repris le refrain, et c'est ce que mon copain m'a raconté à ce moment-là, eh bien, quand il a dit « ne m'appelez plus jamais France », la France, elle m'a laissé tomber. Et il m'a dit « Thierry, eh bien, tu ne peux pas savoir ce qui se passait dans l'auditoire. Il y a eu des pleurs, les gens étaient d'une émotion grande, bien évidemment, parce que ce fameux paquebot, le fleuron de la flotte française, eh bien, était né à Saint-Nazaire. Il y avait une telle émotion dans ce... C'était quasiment électrique dans cette salle de concert. Mais ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est que les autres pourraient vous abandonner, vous laisser tomber. Mais il y en a un qui ne vous laissera jamais tomber, bien sûr, Seigneur. Dieu ne vous laissera jamais tomber, quelle que soit la difficulté, le problème, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, le Seigneur ne vous laissera jamais tomber. Le diable peut-être viendra nous sucer la noyée, parce que c'est, dès qu'il y a une difficulté, il vient, il s'engouffre dans la brèche. Il vient, écoute, le Seigneur, il n'écoute même pas ta prière. Regarde la situation dans laquelle tu es depuis tant d'années. Il n'y a rien, aucun changement dans l'église, il n'y a aucun changement dans ta vie. Aucun changement dans la vie de tes enfants. Aucun changement dans ta situation. Mais si tu crois que si Dieu t'aimait, tu crois qu'il t'aurait laissé dans cette situation-là? Dieu, la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ne doutons jamais, nous pouvons douter d'énormément de choses, mais ne doutons jamais de la bonté, de la fidélité, de l'amour de Dieu à notre égard. Cet amour que Dieu, eh bien, a manifesté en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, bien évidemment, eh bien, c'est cet ami fidèle. La Bible nous dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alors rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu merveilleux qui vient à notre rencontre pour nous restaurer. Mais aussi pour nous rétablir comme il l'a fait pour Élie. Il veut aussi nous inviter à nous relever, à sortir de cette grotte et à reprendre le chemin de la vie, le chemin qu'il a prévu pour vous, afin d'accomplir ou de vivre selon le plan éternel conçu pour vous. Alors, une chose qui est importante ici, avant de laisser place au prophète Jérémie pour une citation finale, Dieu peut, Dieu veut réparer dans notre vie tout ce qui a été cassé. Est-ce que vous êtes au clair là-dessus, mes frères et sœurs ? Dieu veut et Dieu peut réparer dans votre vie tout ce qui a été cassé. Et ça, vous savez dans votre vie ce qui a été cassé. Mais seulement, il faut pouvoir, il faut devoir lui remettre tous les morceaux. Est-ce que vous comprenez ? C'est important. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ça, c'est Jérémie qui parle après être passé par ses épreuves, ses difficultés, ses doutes, ses remises en question. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
Amen.
On peut dire un amen général, je pense. Elles se renouvellent chaque matin. Pour que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui.
Amen.
Voilà, que son Saint-Nom soit béni.
Amen.